VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir le monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition du lundi 17 octobre 2022. Avec vous, Eric Manila Kidza, voici d'abord le sommaire. Au Mali, deux casques bleus tués par un engin explosif improvisé. Au Tchad, flambée des prix des denrées alimentaires. L'ONU donne un chiffre record de plus de 2 millions de Tchadiens dans une faim aiguë. En Éthiopie, le gouvernement prête à discuter mais entend poursuivre ses opérations militaires au Tigré. Au Maroc, coup de filet anti-migrants près de l'enclave espagnole d'Omélia. L'OTAN entame un exercice de routine pour tester son dispositif de dissuasion nucléaire. À suivre dans l'actualité économique, le Zimbabwe qui s'engage à apurer ses dettes envers les institutions financières multilatérales. Également dans cette édition, les sports de Yacouba Ouédraogo.
Sadio Mané pourrait intégrer le trio final de ce Ballon d'Or 2022.
Eh oui, on connaîtra ce soir le vainqueur du Ballon d'Or, mais d'abord le journal. Deux casques bleus de la mission de l'ONU au Mali ont été tués, quatre autres grièvement blessés ce lundi par l'explosion d'un engin explosif improvisé dans le nord du pays, a indiqué la MINUSMA sur Twitter. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Les soldats ont trouvé la mort quand leur véhicule a sauté sur un engin explosif improvisé lors d'une patrouille de déminage à Tessalit dans la région de Kidal, a précisé la MINUSMA. Les casques bleus faisaient partie du contingent tchadien de la MINUSMA. Les engins explosifs improvisés ont causé la mort de 74 casques bleus depuis le début de la mission en 2013, a comptabilisé la MINUSMA. Ils frappent aussi les civils, 11 d'entre eux ont été tués et des dizaines d'autres blessés la semaine passée dans la région de Mopti, dans le centre du Mali, quand le car qui les transportait a heurté un engin explosif. La MINUSMA est, avec les forces maliennes, l'une des principales cibles de djihadistes qui visent la présence étrangère et les symboles de l'État. Avec environ 12 000 soldats déployés au Mali, elle est la mission de l'ONU la plus meurtrière dans le monde. Depuis sa création en 2013, 179 de ses membres ont trouvé la mort dans des actes hostiles.
Des médias et des associations de défense des droits de l'homme ougandais ont saisi lundi la Cour constitutionnelle à Kampala pour tenter d'invalider une nouvelle loi qui vise, selon eux, à restreindre la liberté d'expression sur Internet et à museler l'opposition. L'ONG de défense des droits de l'homme Amnesty International a demandé l'abrogation du texte. Le recours contre la loi sur l'usage abusif de l'informatique, promulgué le 13 octobre par le président Yoweri Museveni, a été déposé par 13 requérants. Le gouvernement éthiopien a répété ce lundi être disposé à des pourparlers de paix, tout en disant vouloir poursuivre ses opérations militaires dans la région du Tigré. Hier dimanche, l'Union africaine a appelé à cesser immédiatement les hostilités. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Le gouvernement est contraint de prendre des mesures défensives pour protéger la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays face aux attaques répétées des autorités rebelles du Tigré en collusion active avec des puissances étrangères hostiles. C'est ce qu'indiquent les autorités fédérales éthiopiennes dans un communiqué. Addis Abeba ajoute qu'il est impératif de prendre le contrôle immédiat de tous les aéroports, autres infrastructures fédérales et installations au Tigré. Elle assure toutefois être déterminée à une résolution pacifique du conflit via les pourparlers de paix sous l'égide de l'UIA. Selon le gouvernement fédéral, un règlement global et négocié apportant une paix durable est nécessaire. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a appelé à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. De leur côté, les rebelles tigréens se disent prêts à respecter une cessation immédiate des hostilités. En plus de l'UIA, l'ONU, les États-Unis et l'Union européenne font part de leur inquiétude face à une récente intensification des combats au Tigré.
Le secrétaire général de l'ONU a réclamé également la fin des hostilités dans la région du Tigré, demandant notamment le retrait immédiat des troupes érythréennes. La situation en Éthiopie devient incontrôlable. La violence et la destruction atteignent des niveaux alarmants, a déclaré à la presse Antonio Guterres. Les autorités marocaines ont arrêté 25 migrants africains près de l'enclave espagnole d'Omélia, un endroit où une violente tentative d'immigration clandestine avait fait plusieurs morts. En juin, le point avec Rosine Mounedzer.
Les migrants, des Soudanais et des Tchadiens en situation irrégulière ont été interpellés dimanche dans la forêt de Gourougou, près de Nador, ville frontalière marocaine. Ils devaient comparaître ce lundi devant le procureur général de Nador. Certains sont accusés d'actes de violence lors de leur arrestation. Le Maroc joue le rôle du gendarme au service de la politique européenne d'immigration, estime Omar Nadji, un militant de l'Association marocaine des droits de l'homme. Pour lui, les autorités auraient dû protéger ces demandeurs d'asile au lieu de les arrêter. De nombreux migrants subsahariens cherchant à accéder clandestinement dans l'enclave espagnole de Melilla ont érigé des abris de fortune dans la forêt de Gourougou. Le 24 juin dernier, 23 personnes ont trouvé la mort lorsque près de 2000 Soudanais avaient tenté d'entrer en force à Melilla à partir du poste frontière de Nador. Des dizaines d'entre eux ont été condamnés à des peines de prison par la justice marocaine.
Le conflit tribal dans l'État soudanais du Nil Bleu à la frontière avec l'Éthiopie a fait 13 morts en 4 jours selon un nouveau bilan publié par l'ONU lundi. Ces affrontements la semaine dernière à Wad al-Mahi entre membres de la tribu des Haoussa et des tribus rivales dont celle des Amaj ont également fait 24 blessés. Selon l'ONU, la situation reste tendue et imprévisible.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Une peine de 6 mois de prison a été requise lundi à l'encontre de l'ex-conseiller de Donald Trump, Steve Bannon, qui a été reconnu coupable en juillet d'entrave à l'enquête sur l'assaut du Capitole. Les procureurs ont épinglé la défiance, la mauvaise foi et le mépris manifestés par Steve Bannon dès son assignation par la commission de la Chambre des représentants qui enquête sur l'attaque du 6 janvier 2021. Un juge doit prononcer vendredi à Washington la peine contre cet homme de 68 ans, figure du populisme de droite aux États-Unis. L'OTAN a entamé ce lundi un exercice militaire de routine pour tester son dispositif de dissuasion nucléaire en Europe. Cet exercice survient dans un contexte de tension avec la Russie qui a menacé de recourir à l'arme atomique en Ukraine. Mouamadou Onfa.
Cette manœuvre annuelle baptisée Steadfast Noon mobilise jusqu'à 60 avions, dont des bombardiers américains à long rayon d'action B-52 dans une vaste zone aérienne au-dessus de la Belgique, du Royaume-Uni et de la mer du Nord. 14 des 30 pays membres de l'Alliance y participent, mais pas la France, dont la politique de dissuasion nucléaire est indépendante de l'OTAN. Évoquant cet exercice prévu jusqu'au 30 octobre et qui avait été planifié avant l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes, l'Alliance Atlantique souligne qu'il représente une activité d'entraînement régulière et récurrente et n'est pas liée à des événements mondiaux actuels. Le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg, a insisté pour maintenir l'exercice malgré les tensions avec la Russie. D'ailleurs, l'OTAN assure n'avoir constaté aucun changement dans le dispositif nucléaire de la Russie malgré les menaces du Kremlin. Mais nous restons vigilants, a souligné M. Stoltenberg.
Au moins 8 personnes ont été tuées dans les multiples frappes russes menées lundi matin sur l'Ukraine, notamment sur la capitale Kiev et la région de Sumy dans le nord-est, ont annoncé les autorités locales. Selon le Premier ministre, des installations énergétiques et un immeuble résidentiel ont été endommagés. Des centaines de localités sont sans électricité, a-t-il indiqué dans la matinée. En revanche, l'Union européenne intensifie ses efforts dans son soutien militaire à l'Ukraine avec le lancement lundi d'une mission pour former sur son territoire 15 000 soldats ukrainiens et l'octroi d'une nouvelle dotation de 500 millions d'euros pour la fourniture d'armes. Les services secrets allemands ont mis en garde lundi contre la Chine qui tente de s'approprier du savoir-faire économique et scientifique en Allemagne. Le nouveau président Abdel Latif Rachid a souhaité la formation rapide d'un gouvernement en Irak et s'est engagé à poursuivre des relations équilibrées avec les pays voisins lors de sa prise de fonction lundi. Plus de 40 organisations de défense des droits humains ont dénoncé lundi la répression meurtrière en Iran contre les manifestations en cours depuis un mois. Ces ONG ont exprimé leur vive préoccupation face à la machine de répression déployée par les autorités iraniennes pour sévir contre le mouvement de contestation. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco présentée ce soir par Mohamedou Oumfa.
Le Zimbabwe s'est engagé à apurer ses dettes envers les institutions financières multilatérales et a déjà commencé à effectuer des remboursements symboliques à certaines d'entre elles, a annoncé samedi le ministre zimbabwéen des Finances lors d'une conférence de presse. Le Zimbabwe traîne encore des arriérés de dettes estimés à 10 milliards de dollars, selon l'agence Ecofin. L'Algérie et l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, se sont déclarées dimanche à Alger pleinement confiantes quant aux conséquences qui découleront de la dernière décision prise par l'OPEP et ses alliés de réduire la production du brut sur le marché international. Un accord adopté dans ce sens le 5 octobre 2022 à Vienne vise à réduire la production totale de 2 millions de barils par jour à compter du 1er novembre 2022 pour stabiliser les cours du brut. Madagascar bénéficiera d'un prêt à taux concessionnel de 200 millions de dollars américains accordé par la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, pour financer des projets d'autoroute dans le pays, a annoncé samedi soir le ministère de l'Économie et des Finances dans un communiqué.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
On connaîtra le vainqueur du Ballon d'Or ce soir et le Sénégalais Sadio Mané pourrait marquer l'histoire.
Oui, après avoir été champion d'Afrique avec le Sénégal, vice-champion d'Angleterre avec Liverpool, finaliste de la Ligue des Champions, Sadio Mané pourrait intégrer le trio final de ce Ballon d'Or 2022, lui qui a aidé son pays à se qualifier pour le prochain mondial. S'il réussit, ce sera une première depuis le Ballon d'Or du Libérien George Weah en 1995. Mané est en lutte avec deux autres cadors européens, l'attaquant polonais Robert Lewandowski, deuxième de l'édition 2021, qui a réalisé une saison pleine au Bayern Munich avant de rejoindre Barcelone cet été. Il y a aussi Kylian Mbappé qui a été étincelé avec le Paris Saint-Germain, mais qui a subi la loi du Real de Karim Benzema en huitième de finale de Ligue des Champions. L'attaquant français des Merengues reste le grandissime favori à la succession de Lionel Messi, vainqueur l'an passé.
On connaît presque tous les clubs qualifiés pour la phase de poule des Coupes africaines.
Le Wydad de Casablanca défendra bien son titre battu 2-1 au Nigeria à l'aller par Rivers United. Le WAC a réagi en s'imposant 6-0. Ça passe aussi pour le Raja de Casablanca, double vainqueur des Nigériens de Negelec. Qualification tranquille des Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, des Égyptiens du Zamalek et d'Al Ahly. Les Guinéens du Oroya verront aussi cette phase de poule car tombeur de l'ASEC Mimosa dans le duel de l'Afrique de l'Ouest. Le club de Matam s'est contenté d'un nul, un but partout à domicile, après avoir remporté 1-0 la manche aller à Yamoussoukro. Pour le reste, Coton Sport de Garoua passe devant Royal Léopard d'Iswatini. Pareil pour les Tanzaniens de Simba qui ont battu en aller-retour les Angolais des 1er de Agosto. Ça cale en revanche pour le tout-puissant Mazembe pour la deuxième année consécutive, cette fois sorti au tir au but par les Ougandais de Vipers. Les Maliens de Djoliba sont aussi out malgré son succès 2-1 il y a une semaine. Le club de Bamako a cédé 2-0 au match retour en Algérie face au CR Belouizdad. Les deux clubs soudanais y seront aussi, Al Merrekh et Al Hilal, ainsi que les Angolais du Petro Atlético de Luanda. Le dernier qualifié sera connu jeudi à l'issue du match retour entre l'AS Vita Club de Kinshasa et le Rai Club du Kadiogo de Ouagadougou.
La campagne africaine n'est pas finie pour les équipes éliminées.
Elles devront disputer un match de barrage contre les qualifiés de la Coupe CAF, un tour de cadrage que va disputer le tenant du titre La Renaissance de Berkane, qui a renversé les Nigériens de Kouara United. Pareil pour le second représentant marocain, l'Asfar, facile vainqueur des Guinéens d'Ashanti Golden Boys. Ça passe aussi pour les deux représentants égyptiens, Pyramide et Futur FC, tout comme pour les Congolais de Lupopo et de Daring Club Motoma Pembe. Les Ivoiriens de Gagnon ont réalisé l'exploit d'éliminer les Algériens de la JS Saoura 1-0 à l'aller et pas de but au retour. Qualification aussi pour les Diables Noirs du Congo devant les Mozambicains de Ferroviaire d'Abeira. Par contre, les Ghanéens d'Art of Hawk ont été éliminés par les Maliens de l'AS Real de Bamako. Le tirage au sort des barrages aura lieu demain mardi au Caire.
Et c'est tout pour les sports. Merci à Kouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. De retour avec vous, Eric Manirakiza. Place au dossier du jour. En Guinée équatoriale, deux candidats affronteront le 20 novembre le président Théodoro Obiang Nguema Mba Sogo, qui brigue un sixième mandat après plus de 43 ans à la tête de ce pays. Monsieur Obiang détient à 80 ans le record mondial de longévité au pouvoir pour un chef d'État vivant en dehors des monarchies. Par ailleurs, la Guinée équatoriale est l'un des États les plus fermés et autoritaires au monde. Sur les enjeux de ces élections, Jean-Roger Bion a joint l'analyste Fabien Essiane. C'est un journaliste basé à Malabo.
En fait, l'un des grands enjeux de cette élection présidentielle, ce n'est même pas la victoire, ce sera confirmé, d'Obiang Nguema Mba Sogo, c'est plutôt le grand inconnu. Va-t-il aller au terme de son nouveau mandat? Va-t-il laisser la place au fils? Parce que la grosse question qui se pose en ce moment à Malabo, que tout le monde se pose à Malabo, c'est de savoir quelle stratégie va-t-il adopter. Parce que selon la constitution équato-guinéenne, le successeur constitutionnel, c'est le vice-président de la République. Et le fils Théodore Nguema Obiang est le vice-président de la République. Ça veut dire que des hypothèses ont commencé à surgir de partout à Malabo. Certains disent que l'idée du président Obiang, c'est de prendre l'élection présidentielle, de remporter l'élection présidentielle, de se retirer du pouvoir avant la fin de son mandat et créer la vacance à la tête de l'État. À ce moment, la constitution sera appliquée, c'est-à-dire faire passer le fils à la tête du pays selon la constitution et de manière légale. Et là, ça fera en cause puisque le fils n'a pas tout à fait l'assentiment de ses côtés guinéens.
Alors, le régime de Théodoro Obiang Nguema a réussi le pari d'emprisonner 150 militants en quelques jours du parti interdit citoyen pour l'innovation. Alors qu'on sait que répression et élection ne sont pas des thèmes compatibles, pourquoi y a-t-il jamais de sanctions contre la Guinée équatoriale?
C'est assez curieux, on a l'impression que la communauté internationale adoube un peu ces actes antidémocratiques du chef d'État équatorien. Vous avez un petit parti, Convergence pour, aux citoyens pour l'innovation, qui est un parti qui a même d'ailleurs été dissous en Guinée équatoriale en 2019, après le coup d'État manqué. En 2017, on a accusé le leader de ce parti de faire partie des membres de ce coup d'État. Son parti a été dissous. Alors, le fait que la communauté internationale ne bronche pas le petit doigt, peut-être montrer la complicité de ces communautés internationales face à toutes ces exactions d'un pays dit démocratique. C'est assez curieux et ça peut beaucoup apprécier les Équatoriens guinéens. Ont-ils encore la foi sur ces communautés internationales qui font un deux pour deux mesures? Quand il s'agit de certains pays, on lève le ton, mais par contre, certains d'autres, on ne fait même pas allusion. On a l'impression que c'est un pays qui n'existe pas sur le plan international. Alors, les dirigeants se disent, on est tout droit permis, on peut faire tout ce qu'on veut, on n'a pas de rien.
Donc, le raz de marée en Guinée équatoriale, c'est la norme. Quels sont, selon vous, les paramètres qui pourraient changer la donne dans ce pays?
Ça sera difficile, parce que sur le plan intérieur, le président Obiang maîtrise les leviers sur tous les aspects, que ce soit politique, économique, social. Alors, ce qui pourrait peut-être changer la donne, ça viendrait d'un sursaut d'orgueil des propres Équatoriens guinéens. On ne sait pas, est-ce une population qui va se réveiller très difficilement? C'est difficile de le croire, mais vous savez, l'être humain étant ondoyant et divers, qui sait? Peut-être que les Équatoriens guinéens peuvent avoir un sursaut d'orgueil et dire, on en a marre, mettons fin à cette mascarade. Peut-être, parce qu'il y a une grosse opposition équatorienne qui est à l'étranger, qui aussi pousse ses pions. Vous avez certains qui sont basés en Espagne et qui font passer, qui vont donner leur voix pour dire ça y est, on en a assez, il faudrait qu'on mette fin à ce régime qui ne veut plus s'en arrêter. Ça devient une sorte de royaume démocratique.
Le journaliste Fabien Essiane, basé à Malabo, en Guinée équatoriale.
Avec vous, dans Washington Forum cette semaine, le 20e congrès du Parti communiste chinois et les ambitions de Xi Jinping pour la Chine. Alors qu'il veut doubler le PIB de son pays d'ici à 2035 et faire de la Chine la première puissance mondiale d'ici à 2049, il revendique son rôle de contrepoids face à l'Occident, États-Unis en tête. Xi Jinping a aussi réitéré son ambition de ramener Taïwan dans le giron chinois de façon pacifique, mais n'exclut pas la force. Comment analyser les ambitions de la Chine dans le monde? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche.
Le Premier ministre de la République centrafricaine est à Washington DC dans le cadre des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI. Il a été reçu à cette occasion au département d'État américain où il a fait le point sur la situation politique dans son pays. Marius Muhunga s'est entretenu avec Félix Moloua, le chef du gouvernement centrafricain.
Nous avons été accueillis au département d'État où on a fait le tour des questions politiques et nous avons eu l'occasion de remercier les États-Unis qui contribuent énormément depuis le plus fort moment de la crise dans les actions humanitaires. Nous avons eu aussi en bilatéral avec le président directeur général du Fonds saoudien avec qui nous avons fait de la situation le tour donc des projets dans le pipeline. Et ils ont beaucoup apprécié les réformes que nous sommes en train de mener sous la direction du président de la recherche de l'État, professeur François Ankache Touadéra.
Alors, votre pays sort d'une longue guerre. Où en êtes-vous aujourd'hui avec les efforts de la pacification du pays?
D'abord, c'est l'occasion de remercier la communauté internationale. Je l'ai dit tout à l'heure pour les États-Unis, mais aussi l'appui des alliés avec la MINUSCA. Il faut se dire que nous travaillons pour sécuriser le pays. Et aujourd'hui, nous sommes environ plus de 80%. Le territoire est sous contrôle. S'il y a quelques zones, c'est question de grand banditisme. Mais nous y travaillons. C'est pour ça que il est urgent que nous poursuivions nos actions pour que cette phase de sécurité retrouvée, que la population puisse en bénéficier.
Quelle est la mission des instructeurs russes dans votre pays?
Bon, les instructeurs russes sont venus, d'abord, sont passés par les Nations Unies, le Conseil de sécurité. Ils sont là pour encadrer nos FACA. Ils sont là pour nous aider à avoir des équipements pour protéger le pays.
Est-ce que c'est pour ça que la garde rapprochée du président de la République est faite par les Russes?
Il n'y a pas que les Russes là-bas. Il y a les FACA, il y a les Rwandais, il y a les Russes. C'est tout un mélange. Donc, on ne peut pas seulement faire un focus sur les Russes. De toutes les manières, c'est dans un cadre de coopération.
Qu'est-ce que paye votre pays dans leur retour?
Non. Donner en retour, la question pourrait être posée pour les autres, pourquoi ne poser que pour les Russes? Ça peut poser, des coopérations.
Vous devez, oui. Vous devez donner quelque chose en retour.
Non, qu'est-ce que vous donnez? Dans le cadre d'une coopération. La coopération, ça, il faut avoir la documentation pour le voir. On a eu, depuis fort longtemps, la coopération avec la France. Pourquoi la question n'est pas posée dans ce sens? On a eu la coopération avec la Russie, on a eu la coopération avec le Rwanda. Apparemment, c'est des questions géopolitiques, on ne va pas se lancer là. Aujourd'hui, ce que nous gagnons, nous avons la paix, la sécurité.
La Cour constitutionnelle de votre pays a rejeté une proposition du président Touadéra de nommer une équipe pour modifier la constitution. Que va-t-il se passer maintenant?
Nous sommes en démocratie. Ce qu'il faut retenir, le pouvoir c'est pour le peuple. Et le chef de l'État, il est respectueux des institutions. Il est revenu sur les décrets. C'est tout à fait normal. C'est pour montrer qu'il respecte les institutions. Mais maintenant, il y a le peuple. Si le peuple insiste, certainement, ce n'est pas l'idée qui est remise en cause. Mais c'est la procédure. Certainement qu'une procédure sera trouvée.
Est-ce que le président Touadéra compte-t-il se représenter aux prochaines élections?
En ce moment, le président Touadéra ne s'est pas prononcé. Le problème, c'est ça qui crée la peur. De toutes les manières, laisser le soin à la population de se prononcer.
Félix Moloua, chef du gouvernement centrafricain.
Au Burkina Faso, les camps informels pour les personnes fuyant le conflit.
Nous retrouvons tout à l'heure Yacouba Ouédraogo dans ce reportage au Burkina Faso où les groupes d'aide affirmaient que près de 2 millions de personnes ont été déplacées par le conflit de 7 ans avec des groupes armés liés à l'État islamique et à Al-Qaïda. Le gouvernement a récemment annoncé 1,5 million de déplacés. Les groupes de défense affirmaient que s'en tenir au nombre inférieur pourrait réduire le montant de l'aide fournie aux personnes dans le besoin. Notre correspondant Henry Wilkins s'est rendu dans un camp de déplacés à Kodsimoro, dans le centre nord. Le récit est signé Yacouba Ouédraogo.
Faso, les camps informels pour les personnes fuyant le conflit, qui dure depuis 7 ans dans le pays, sont de plus en plus courants. Des groupes à but non lucratif ont déclaré le mois dernier que près de 2 millions de personnes sont désormais déplacées dans ce pays. Le gouvernement renversé par le coup d'État du 30 septembre avait estimé le nombre de personnes déplacées à 1,5 million. Il avait dit avoir supprimé de nombreux noms du registre des personnes déplacées. Le gouvernement soutient que ces personnes non déplacées ont été doublement enregistrées, ajoutant que celles qui sont bien intégrées dans les communautés d'accueil ne peuvent plus être considérées comme des personnes déplacées. Badejo Sissé a fui le nord du pays il y a environ 5 ans.
Nous devons rester ici. Si la paix revient dans le pays, nous aimerions rentrer chez nous. mais notre village n'existe plus et il n'y a plus personne.
De grandes parties du nord du Burkina, y compris son village, ont été ravagées par des groupes terroristes liés à l'État islamique et à Al-Qaïda. Aminata Ouédraogo vit à Ouagadougou. Mais la politique gouvernementale ne reconnaît pas les personnes déplacées dans la capitale comme éligibles à l'aide. Pour recevoir de l'aide, elles doivent se rendre dans des camps officiels éloignés des grandes villes. Aminata dit avoir fui sa ville de Djibo il y a environ 3 mois, empruntant la route de Ouagadougou, que certains appellent la route de la mort par manque de sécurité. Leur convoi a été attaqué.
Notre convoi s'est scindé et une quarantaine de personnes qui se trouvaient à l'arrière ont essuyé les tirs. Ma belle-fille a été blessée. Elle a dû être héliportée à Ouagadougou. Je n'oublierai jamais de l'avoir vue être projetée sur la route par une explosion.
Des groupes à but non lucratif ont déclaré à la VOA qu'ils sont obligés de travailler sur la base de l'évaluation du gouvernement renversé, qui est de 1,5 million de déplacés. Les donateurs utilisent parfois ce chiffre pour déterminer le montant de l'aide qu'ils accordent au pays. Alexandra Lamarche est de l'ONG Réfugiés Internationaux, un groupe de défense basé à Washington, D.C. Elle remet en question la décision de l'ancien gouvernement de rayer de la liste tant de personnes déplacées.
Cela soulève des inquiétudes assez importantes quant à savoir si le gouvernement précédent commençait ou non à nier l'étendue de la crise, ce qui peut avoir des réelles ramifications sur la vie des civils.
Il reste à voir si les nouveaux dirigeants militaires, lorsqu'ils formeront un gouvernement, s'en tiendront au chiffre de 1,5 million de déplacés. Marine Olivesi est responsable du plaidoyer auprès du Conseil norvégien pour les réfugiés. Elle dit que la situation au Burkina Faso est de plus en plus désastreuse, indépendamment de toute confusion autour du nombre de déplacés.
Le plan de réponse humanitaire qui a été révisé au mois d'août montre qu'il y a maintenant 1,4 million de personnes supplémentaires dans le pays qui ont besoin d'aide humanitaire par rapport au début de l'année.
Quant à Cissé, il est dans une situation confuse. Il ne veut pas se contenter de vivre dans le camp pour le reste de sa vie, mais il n'a pas où aller.
Une grave sécheresse suivie des pires inondations que le Tchad ait jamais connues en 30 ans ont entraîné une flambée des prix des denrées alimentaires et laissé un nombre record de 2,1 millions de Tchadiens dans une faim aiguë selon les agences des Nations Unies. Cette situation concerne 10% d'enfants de moins de 5 ans. Récit de Nani Tetalani.
À l'hôpital Notre-Dame des Apôtres de N'Djamena, Fatima Mahamat Idriss, 28 ans, nourrit son tout petit enfant amaigri par une sonde d'alimentation. Lorsque la récolte a échoué, son mari a cherché du travail dans une mine d'or dans le nord, ne laissant aucune nourriture pour elle et leurs 3 enfants.
Mon enfant est hospitalisé depuis plus d'une semaine, car elle est malade et trop faible pour manger. Quand nous sommes arrivés ici, elle recevait du lait avec une seringue et des injections régulières tous les jours. Maintenant, elle va beaucoup mieux et son visage change. Je suis très reconnaissante envers les médecins qui s'occupent des enfants ici. Ce sont presque leurs deuxièmes mères. Merci pour les produits, car nous ne pourrons jamais les acheter à cause de notre situation ou même pour obtenir la nourriture, c'est difficile.
Fatima Mahamat Idriss est loin d'être la seule mère à faire face à cette situation. Selon Alex Tongyang, chef de l'administration de l'unité de nutrition, cette année, plus de 1700 enfants ont déjà été hospitalisés, plus que les 2 dernières années, à cause de la grave sécheresse et des pires inondations que le pays ait connu en 30 ans. Suite à la catastrophe climatique, 10% d'enfants de moins de 5 ans sont touchés par la malnutrition aiguë et 1 sur 3 souffrira d'un retard de croissance, estime le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Mais ce n'est pas seulement leur croissance physique qui est affectée, nous dit le docteur Apollinaire Dotenant.
L'état de la malnutrition est un état dans lequel quand un enfant se trouve, il y a une baisse de ses capacités cognitives, donc ça influence directement sur sa rentabilité aussi.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Ainsi va le monde aujourd'hui. Eric Manilakis a été avec vous. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.